Léa Salamé, votre invité ce matin est ancien Premier ministre.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Léa Salamé.
Merci d'être avec nous. Vous avez été ancien Premier ministre, oui, mais vous avez aussi été candidat à la primaire de la gauche à l'ex-présidentielle. À ce titre, avez-vous été surpris, choqué par les déclarations de l'ex-procureur Éliane Houlette en charge de l'affaire Fillon, qui affirme avoir reçu des pressions de sa hiérarchie pour accélérer la procédure? Ceux qui disent que l'élection présidentielle a été tronquée, faussée, voire volée, ont-ils raison?
Surpris, oui, et parce que cela met un doute, un poison dans l'institution judiciaire, comme l'a dit d'ailleurs la garde des Sceaux. Et c'est pour cela que le président de la République a eu raison de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'on sache exactement ce qui s'est passé et que toute transparence soit faite sur la procédure. Ensuite, moi, ce qui m'étonne toujours en France, c'est notre capacité à remettre en permanence nos institutions, la police, la gendarmerie, la justice, et désormais même, pour certains, l'élection présidentielle. Non, évidemment, cela ne remet pas en cause la légitimité de l'élection présidentielle de 2017.
Vous ne pensez pas qu'elle a été tronquée ou faussée, comme affirme notamment la droite?
Non, mais votre éditorialiste Thomas Legrand vient de dire l'essentiel. C'est la presse qui a révélé cette affaire, qui a évidemment beaucoup agi dans la campagne présidentielle. Dans quelques jours, si je ne me trompe pas, on prononcera le jugement sur cette affaire Fillon. Donc laissons la justice travailler jusqu'au bout. Mais les faits établis à ce moment-là ont énormément compté, beaucoup plus, il me semble, je le dis modestement, que l'action judiciaire elle-même à ce moment-là. Il y a eu les faits, et les faits sont têtus, et les Français n'ont pas souhaité voir François Fillon au deuxième tour. Mais c'est ainsi, cela fait déjà 3 ans.
Il y a par ailleurs une commission d'enquête parlementaire sur l'indépendance de la justice. Manuel Valls, doit-elle entendre, s'il y a eu pression, puisque les déclarations d'Éliane Houlette sont quand même graves, doit-elle entendre le ministre de la Justice de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, voire même remonter plus haut jusqu'à l'Élysée, auditionner l'ancien président de la République, François Hollande?
La commission d'enquête a beaucoup de pouvoir et elle doit pouvoir, bien évidemment, si elle le souhaite, interroger, questionner les ministres et notamment les ministres de l'époque. Cela ne pose aucun problème pour le président de la République. C'est évidemment autre chose, mais très honnêtement, elle agira comme elle l'entend pour, encore une fois, que toute transparence soit faite. Alors moi, je n'ai aucun doute, je n'étais ni ministre ni Premier ministre à ce moment-là.
On le précise,
vous l'avez
puisque vous aviez démissionné pour être candidat.
Je n'ai aucun doute sur le fait que François Hollande n'a établi aucune pression dans cette affaire. D'ailleurs, on ne comprend pas très bien de quelle pression il s'agit. Elle a elle-même dit qu'il n'y avait eu aucune pression politique, mais que la pression venait en termes de renseignements sur la base de
pression hiérarchique.
De sa hiérarchie du parquet, bien évidemment.
Le parquet qui n'est pas indépendant. Manuel Valls, 150 détenus condamnés pour des faits de terrorisme et qui ont purgé leur peine vont sortir de prison dans les prochaines semaines. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté toute une série de mesures de sûreté que le juge pourra leur imposer pendant 5 ou 10 ans, comme l'obligation de répondre à des convocations, d'indiquer son lieu de résidence, voire même de porter un bracelet électronique. Le Conseil national des barreaux et la gauche y voient une peine après la peine et une atteinte aux principes fondateurs du droit. Qu'en pensez-vous ?
Je crois que c'est une bonne chose. Enfin, il va y avoir encore un débat qui va se poursuivre au Sénat et j'imagine que le Conseil constitutionnel sera également saisi. Mais de quoi parle-t-on ? On parle de 150 personnes qui vont sortir de prison. Ce sont ce qu'on appelle des sorties sèches et des personnes condamnées dans les années 2000 pour des délits liés au terrorisme ou à la radicalisation avant le vote de loi en 2016 qui durcissait les peines après évidemment les attentats de 2015. Donc que le législateur, que les parlementaires se préoccupent de ces sorties de prison quand on sait que les prisons sont le lieu dans lequel on se radicalise, on se forme aussi au terrorisme. Regardons les études sur ce sujet-là, la dernière particulièrement intéressante de Hugo Micheron sur les prisons, l'ENA du terrorisme, si vous me permettez cette expression qui est la sienne. Il est normal donc qu'il y ait toute une série de mesures de précaution qui soient prises, et celles adoptées hier soir, je crois, vont dans le bon sens.
Une autre question à présent. J'étouffe, a-t-il répété 7 fois aux policiers qui l'interpellaient avant de mourir. Le Monde et Mediapart révèlent les enregistrements du téléphone de Cédric Chouvia, ce père de famille mort en janvier dernier à la suite d'un contrôle de police qui a mal tourné. Les 4 policiers sont en garde à vue. Manuel Valls, vous qui répétez qu'il faut davantage soutenir les policiers, qui rejetez le terme générique de violence policière, vous appelez ça comment, ce qui s'est passé avec Cédric Chouvia?
Mais c'est à la justice de l'établir. Il y a une enquête qui a été menée par l'inspection générale de la police nationale, qui travaille bien, on peut toujours améliorer les choses, mais qui travaille bien et qui a transmis les éléments au juge. Et maintenant, c'est à la justice d'établir les faits, de prononcer, si c'est nécessaire, les mises en examen, et ensuite les condamnations. La police comme la gendarmerie agissent, et c'est normal, sous un contrôle extrêmement strict, celui des inspections, celui de la justice, celui de la presse et des citoyens, bien évidemment. Donc, et s'il y a eu des torts, s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des bavures, cela peut arriver, eh bien, il faut qu'il y ait des condamnations qui soient claires. Ça ne veut pas dire que toute la police et toute la gendarmerie, que toutes les forces de l'ordre sont violentes ou racistes. C'est pour ça que je récuse ce procès qui est fait à la police en racisme ou le terme de violence policière. Mais il peut y avoir, bien évidemment, des erreurs, des bavures, et donc elles doivent être condamnées. C'est ainsi qu'une démocratie doit fonctionner.
Comment rétablir la confiance avec la police, Manuel Valls ? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème particulier à la France de confiance avec la police ?
Je ne suis pas sûr. Enfin, écoutez, quand je regarde les enquêtes, très honnêtement, l'immense majorité de nos concitoyens soutiennent d'abord la gendarmerie et ensuite, dans des proportions très élevées, la police. Ça ne veut pas dire, je ne serai pas dans la langue de bois, il n'y a pas un problème de relation, de confiance entre une partie de la population, une partie de la jeunesse, essentiellement dans les quartiers populaires que je connais bien parce que j'ai été l'élu, où ce problème de confiance est posé. D'ailleurs, souvent de part et d'autre, les jeunes ont peur de se faire contrôler, considèrent qu'ils sont trop contrôlés.
Est-ce que ça vous le reconnaissez ? Est-ce qu'il y a un problème de contrôle aux faciès, par exemple, en France ?
Mais il peut y avoir des contrôles aux faciès, bien évidemment, comme il peut y avoir des mots et des actes racistes dans cette institution comme dans la société, comme il y a évidemment des discriminations. J'avais parlé il y a quelques années d'apartheid territorial, social et ethnique, parce qu'il y a cette réalité. Mais la police et la gendarmerie agissent aussi dans un cadre extrêmement difficile, pas seulement depuis les actes terroristes, mais avec un défi à l'autorité, une violence de plus en plus dure. On s'attaque aux policiers aussi. Donc c'est un climat difficile. Donc le débat doit être posé de manière sereine. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être posé, qu'il ne doit pas y avoir une amélioration, un dialogue pour trouver les meilleures solutions. Mais ce que je veux dire encore à votre micro, c'est qu'heureusement la police et la gendarmerie agissent, parce que ce sont ces institutions qui tiennent aujourd'hui plus que jamais la République, et c'est pour cela que aussi certains veulent tout simplement les abattre.
Dans une interview très commentée et critiquée que vous avez donnée la semaine dernière à Valeurs Actuelles, vous avez dit regretter que la lutte des classes disparaisse au profit d'une guerre des races. Vraiment, Manuel Valls, vous avez l'impression que la guerre des classes a disparu, que le problème numéro un aujourd'hui en France, c'est la guerre des races, que ce ne sont pas les plans sociaux, les faillites, le chômage ?
Mais Léa Salamé, moi je veux bien avoir une fonction de Cassandre, mais parfois c'est un peu facile le type de critique qu'on me fait. Il va falloir que tout le monde se réveille. Quand j'ai parlé de la fin du PS, est-ce que j'avais tort ? Ou est-ce que sur les questions de sécurité en banlieue, est-ce que j'avais tort ? Ou sur l'antisémitisme de l'extrême gauche qui rejoint celui de l'extrême droite, est-ce que j'avais tort ? Sur la montée de l'islam politique, est-ce que j'avais tort ? Sur le FN aux portes du pouvoir, est-ce que j'avais tort ? Donc,
la guerre des classes a disparu aujourd'hui en France, Manuel Valls, sérieusement ?
Et je vous dis qu'il faut se méfier d'une partie de la gauche et de cette mouvance dite décoloniale, et c'est ce que j'ai dit, qui veut imposer cette guerre des races, qui veut importer ce qui se passe aux États-Unis. Écoutez, ma gauche, Léa Salamé, parce que moi je suis un homme de gauche, un républicain, un patriote, c'est celle d'Elisabeth Badinter, ou celle de Mona Ouzouf, ou c'est le magnifique article hier de Kamel Daoud, qui défend l'universalisme et qui lui-même, dans son article publié hier dans Le Monde, ne dit pas autre chose et parle précisément de ceux qui veulent imposer une lutte des classes et une lutte des races. Oui, cette mouvance décoloniale veut nous imposer une lecture de la société. Alors, et veut opposer à la question sociale, qui est évidemment très importante, ou à la lutte contre les discriminations et le racisme, qui me semble essentiel, une lutte des races dans laquelle on nous explique que l'homme blanc est celui qui aujourd'hui humilie l'homme noir. Ça, c'est insupportable, que ça n'a rien à voir avec l'universalisme, avec la France, avec la République. Et c'est pour ça qu'il faut dire les choses clairement, parce que sinon, on impose une grille de lecture qui me paraît dangereuse, et je reprends les mots d'Emmanuel Macron, qui crée en effet du séparatisme dans la République.
Merci, Manuel Valls. C'est vrai que vous rentrez en France à l'automne ? C'est fini l'Espagne ?
J'ai vu ça, mais je viens régulièrement et je serai là dans quelques jours à Paris, tout simplement pour voir ma maman, pour voir mes enfants que je n'ai pas vus depuis plusieurs mois, et pour voir les amis. Et je m'intéresse toujours à la France, croyez-moi.
Merci et belle journée à vous.
Merci Léa et à tout à l'heure, 8h20.